Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est tous les dimanches de 11h à midi avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour.
Nous avons visité la Vierge de Guadeloupe la semaine dernière. Où partons-nous aujourd'hui ?
À Puebla, nous irons en coccinelle coller les faïences polychromées sur toutes les églises.
Nous sommes à Puebla, la ville la plus hispanique du Mexique, qui se trouve à l'est de Mexico, Maurice.
À l'est de la capitale, j'aimerais vous faire prendre doucement la route. Justement, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, au volant d'une coccinelle, parce que les coccinelles ont été produites partout dans le monde, bien sûr, et particulièrement en Allemagne. Mais il reste deux fabriques qui continuent à imaginer la coccinelle. C'est à Mexico, bien sûr, et au Brésil. En l'occurrence, lorsqu'on quitte les hauts plateaux, ou plutôt l'Anahuac, qui est ce fameux plateau central qu'on connaît bien maintenant, on est allé un peu partout, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Soit on glisserait sur le nord, le nord-est, et nous pourrions alors nous arrêter devant les grandes pyramides de Teotihuacan, qui sont dans une autre plaine.
Avec plaisir.
Et puis s'échapper sur le lac de Texcoco, qui est le dernier lac qui existe encore dans cette vallée, avec, je voulais aussi évoquer, je crois, ces salines, enfin, ces espèces d'escargots curieux, un peu comme ces escargots qu'on achète dans la boulangerie du coin, vous savez, qu'on voit d'avion comme ça depuis le haut, mais avec une couleur entre le vert et le jaune, avec du découpage qui est fait pour laisser simplement s'assécher ce lac qui en partie a été ainsi mis en mini-digue arrondi comme un colimaçon, afin d'obtenir le sel et certains minéraux qui intéressent encore aujourd'hui l'industrie. Et lorsque l'on glisse le long de Texcoco, j'aurais peut-être juste envie, comme cela, pour le plaisir, d'évoquer un endroit assez curieux qui est très mexicain, parce que ça correspond vraiment au contraste étrange d'un pays qui est à la fois très religieux, et nous l'avons vu à Guadeloupe, et en même temps très politique, c'est-à-dire qui a vécu une politique, en tout cas au XIXe siècle, qui est assez à gauche, ou en tout cas qui a eu des idées laïques très progressistes, voire qui a permis de fermer des milliers et des milliers d'églises pendant des périodes qui sont souvent très longues. Et il y a au bord du lac de Texcoco une université qui est l'université agricole. On va maintenant vers la campagne, et cette université agricole a naturellement une chapelle, a naturellement un ensemble pour y vivre. Et l'église elle-même et l'ensemble de l'école a été décoré par Diego Rivera, qui est le peintre le plus connu du Mexique et qui a lancé dans les années 20, à son retour de Paris, à son retour du cubisme, qui a lancé le mouvement qu'on appelle celui des muralistes. Les muralistes, eh bien, c'est un peu comme nos jeunes d'aujourd'hui. Voilà un peintre qui, dans sa tête d'évoluer de l'époque, de communiste, puisqu'il était au parti, s'est dit « je ne vais pas faire de la peinture de chevalet, je ne vais pas suivre la voie,
fresques.
Je vais carrément imaginer la fresque. » Et imaginer la fresque parce que le peuple doit comprendre son histoire, etc.
C'est donc un des premiers taggeurs.
C'est le seul taggeur de l'époque qu'il faisait encore au pinceau et qui a été imité ensuite par Orozco, par Siqueiros, par les tout grands peintres du Mexique qui pendant pratiquement 40 ou 50 ans vont couvrir les murs non seulement du Mexique mais du monde entier et particulièrement les murs des États-Unis. Je vous donne un exemple, le centre Rockefeller à New York était couvert de fresques de Diego Rivera avec des symboles qui correspondaient à sa vision philosophique et politique, donc des marteaux, des faucilles, etc. Tout cela était effacé aux États-Unis à l'époque sympathique où on n'en a pas beaucoup aimé. Vous vous rappelez, dans ces années 50 où systématiquement on faisait la chasse aux sorcières. Et au Mexique, tout a été conservé. Alors, la première fois où je suis rentré dans cette église, on n'est pas obligé de la visiter aujourd'hui, on peut passer tout droit, bien sûr, mais c'est un endroit qui m'avait beaucoup touché parce qu'on ressent à la fois cette espèce de climat colonial et quand vous arrivez devant la porte, il y a déjà des faucilles et des marteaux partout. Et quand vous pénétrez à l'intérieur, il y en a absolument partout. Je veux dire, sur les sièges où vous allez vous asseoir, devant l'autel, au plafond, sur chacune de ces grandes fresques qui évoquent les grandes déesses de l'agriculture, les dieux qu'on a déjà un peu évoqués, eh bien, et systématiquement, on nous parle de cette idée politique. Alors c'est quand même une chose que je trouve très mexicaine. Je ne les ai pas comptées, mais c'est par centaines qu'on retrouve des symboles communistes dans un endroit qui est on ne peut plus catholique. Quand on continue la route, on va obligatoirement traverser un col. Et pour moi, c'est un col assez symbolique parce qu'on le voit aussi de l'avion quand on quitte la capitale. C'est ce col qui est la partie peut-être la plus basse vers l'est, mais qui se glisse comme cela juste à côté de l'Itzacihuatl. Alors, il faut un peu d'imagination, vous avez une jeune femme couchée. Alors, elle a les cheveux longs, bien sûr, sa coiffure descend comme cela sur le sol. Vous avez ensuite sa poitrine, et puis son corps, et puis tout au bout, ses pieds. Ça, c'est la forme exacte de l'Itzacihuatl. Popocatépetl lorsqu'il est couvert de neige. C'est un volcan qui signifie d'ailleurs dans son étymologie, Itzacihuatl, c'est la jeune femme blanche couchée. Et un peu plus loin, à ses pieds, vous avez le volcan parfait, qui est le Popocatépetl qui fume encore un peu. Je crois qu'il est entré en éruption pour la dernière fois en 1802. Et se colle à quelque chose de fantastique parce que, vous savez, c'est cette impression qu'on a chez nous lorsque tout à coup, on veut monter à Zermatt ou qu'on imagine Gruyère ou qu'on veut vraiment retrouver la montagne. Alors c'est ce piquant de l'air frais, vous avez dépassé naturellement les 2500 mètres, vous avez des pins partout, un ciel d'un bleu intense, Mexico est vraiment derrière nous, la pollution n'existe plus, il n'y a plus de brun, vous êtes maintenant dans une nature sauvage, vous allez sentir là petit à petit que le vrai Mexique est devant vous, ou plus exactement là en bas, lorsque vous allez commencer à descendre sur Puebla.
By a tree near a lake.
Vous nous parliez de l'agriculture tout à l'heure, Maurice. Là, nous sommes en pleine nature. En pleine nature, est-ce que l'on retrouve ceci sur les toiles de Diego Rivera ?
Sur les toiles, oui, bien sûr. Là, vous évoquez les toiles. J'ai immédiatement dans la tête les plus belles. Là, vous parlez bien de toiles. Mm-hmm. Ce sont des formats assez petits de Diego Rivera où l'on voit. Je me rappelle toujours de ces images d'indiennes qui tiennent des gerbes d'arômes. Vous savez, ces arômes qui sont ces fleurs blanches qu'on utilise surtout pour les morts au Mexique. Ou alors ces évocations justement de fruits, de cactus. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui a profondément touché Diego Rivera. Mais en fait, tout à l'heure, nous étions devant des fresques et c'est assez différent. Il faut bien comprendre que cet homme a vécu involontairement cette fabuleuse réforme agraire qui a eu lieu au Mexique, puisque vous parlez d'agriculture, et qui a été lancée grâce à la révolution de 1910. Et là, devant ces fresques, il va essayer de comprendre que cette richesse qui est due à cette politique agricole va lui permettre, dans cette chapelle, de faire comprendre à la fois l'avenir de l'humanité, mais il le voit de façon très curieuse. Il le voit en l'occurrence en s'imaginant que la nature et la terre nourricière, et bien fécondé par les hommes, et qu'il a fallu le travail des hommes pour arriver à quelque chose, et qu'il a fallu naturellement ce mélange avec les éléments. Et en même temps, je ne sais pas, par exemple, vous avez une toile, enfin plutôt une fresque, ouais, je ne veux pas faire l'erreur non plus, où vous avez la germination qui correspond à la revendication sociale. Il estime que cette germination, c'est la même chose que la revendication d'un homme qui a envie de savoir, de connaître, de pousser les choses en avant. Et par exemple, vous avez la floraison, et bien c'est la lutte armée. C'est carrément le combat du Mexicain. La fructification, par exemple, c'est l'épanouissement de la société idéale. Donc c'est vraiment sa propre vision de cette nature.
Belle vision.
Et qui correspond bien à l'idée d'une chapelle. C'est-à-dire qu'il a fait des transcriptions presque mythiques ou voire mythologiques. Il a inventé une sorte de mythologie en rapport avec l'époque qu'il a vécue. Il faut dire que ces peintures ont été faites dans les années 40 pour les dernières, mais l'exécution même de ce que vous avez vu à Chapingo, Chapingo c'est le nom de cette université agricole, ça s'est fait entre 1924 et 1927. Donc vraiment, à l'époque la plus dure et la plus ferme disons, de cette société mexicaine en évolution après la grande révolution qui se termine en 1919-17 selon la vision qu'on en a. Et tout à l'heure, nous avons passé par exemple à Texcoco. Texcoco, c'est une ville absolument époustouflante à l'époque précolombienne. C'était un peu la trilogie entre les territoires centraux. On a évoqué le Templo Mayor avec celle qu'on appelait Mexico Tenochtitlan. On a évoqué Tlatelolco avec le marché, le côté commercial. Eh bien, Texcoco, c'était à la fois le côté juridique et je dirais même poétique. Il y a un homme absolument éblouissant qui a vécu ici, un prince qui s'appelait Netzahualcoyotl. Et Netzahualcoyotl, il a dans les années, à la fin des années 1400, inventer véritablement cette vision de la nature et il arrive à nous décrire une plume de la jadéite, une fleur qui représente la vie, qui représente le cœur humain, avec une dimension poétique absolument époustouflante où l'on monte vraiment jusque dans la stratosphère aztèque. Et c'est le premier qui va nous faire comprendre qu'en dessus de tout, un peu comme dans la chapelle de tout à l'heure, il y a bien sûr l'homme, il y a les dieux, et puis tout en haut il y a cet entendement incroyable qui fait peut-être qu'il y avait quelque chose de monothéisme déjà dans la tête d'un empereur comme Netzahualcoyotl. C'est le plus grand poète, c'est le plus grand écrivain qui soit connu au Mexique précolombien. Et heureusement, le côté oral nous a transmis quand même quelques-unes de ces merveilleuses odes et particulièrement cette vision qu'il a de la nature. Et j'y pense parce qu'en même temps, je suis au sommet, je suis sur ce col. Et quand on traverse cette région, je ne parlerai pas des pins parce que pour nous, ça nous donne un côté méridional. On a l'impression de revoir un peu les paysages qu'on a dans le sud de la France ou même en Espagne. Mais c'est ce côté piquant de l'air, cette fraîcheur, cette clarté qui nous fait comprendre.
On est à combien d'altitude?
Oh, on a passé déjà les 3000 selon l'endroit. Et le col parfait, qui serait le col idéal, disons, ce serait celui qui est entre la jeune femme couchée et le Popocatépetl. Et ça, c'est un endroit qui est à 3080, enfin je peux me tromper, mais le sommet du volcan, donc le plus élevé, est à 5004. Et je ne sais pas, vous pourriez être tenté, en tout cas en imagination, en passant à côté, de le gravir. Et c'est ce qu'ont fait les premiers Espagnols qui sont arrivés. Vous êtes Cortés, il vous manque un peu de poudre, il vous manque un peu de soufre ou certains matériaux dont vous avez besoin pour vos armes.
Il fallait bien qu'il aille trouver son bonheur.
Et oui, il a compris qu'un volcan avait ce genre de choses. Je vois très bien l'image de cet homme qui est par exemple descendu dans le cratère au bout d'une corde. Et ces gens qui ont été chercher leur matière première pour leur canon et leur premier fusil, qui ne s'appelait pas fusil d'ailleurs. Alors, ça a quelque chose de nostalgique de passer juste à côté. Là, vous êtes au pied maintenant de la chevelure de cette jeune femme couchée. Vous serez arrêté plusieurs fois simplement pour prendre des photos, parce que c'est vraiment un endroit où, si le hasard du beau temps vous permet d'avoir la vision complète, vous avez l'un derrière l'autre ces énormes volcans. Et dès qu'on a passé le col, eh bien, vous allez voir tout à coup une autre plaine infinie jusqu'à quelque chose qui vous arrête le regard assez facilement. C'est un autre volcan qui est très loin. Mais au Mexique, les profondeurs de paysages sont absolument fabuleuses. Vous avez des visions qui vont jusqu'à 100-150 km avec une clarté totale. Vous avez un nouveau volcan qui s'appelle le Cerro de la Malinche. Voilà, qu'on est de nouveau dans la même histoire. La Malinche, c'était la mille de Cortés. C'était cette indienne qui parlait l'aztèque, qui avait rencontré par hasard Cortés sur les côtes. Il y a eu, en fait, plus exactement, elle lui avait été donnée avec 19 autres femmes. Cadeau qu'on faisait volontiers lorsqu'on était indien et qu'on recevait un demi-dieu comme l'était Cortés. Il va d'abord la laisser à un de ses capitaines. Il a partagé toutes ses femmes entre ses hommes et ses soldats, et surtout les gradés, bien sûr. Et finalement, il a senti qu'il y avait quelqu'un chez cette femme qui avait surtout un cerveau extraordinaire. Et on a peine à comprendre à quel point cette femme a été vraiment le moteur total de la conquête. Elle a pu tout traduire, elle a rencontré le Tlatoani, tous les gens qu'on oublie maintenant derrière nous à Mexico. Et elle a passé là, avec lui, plusieurs mois depuis la côte, depuis Veracruz, où l'on se rend petit à petit. Et ils se sont arrêtés près de Puebla, qui n'existait pas, une ville absolument invisible à l'époque précolombienne, puisqu'elle a été bâtie sur rien. Elle a été vraiment conçue de mode avec le mode espagnol et pour des idées espagnoles. Mais à côté, il y avait un endroit où j'aurais envie que nous descendions maintenant, c'est Cholula. Cholula, qui est la construction la plus folle que l'Amérique peut-être nous a laissé, une pyramide qui est tout simplement 9 fois plus grande que celle du soleil qu'on aura peut-être vu tout à l'heure si on s'est arrêté à Teotihuacan. Oh, how could I doubt you?
has no recompense for waking up morning feeling sure it's myself who's the foolish one.
Nous sommes à Cholula, Maurice. Cholula, c'est cette fausse montagne. Mais avant, est-ce que c'est possible de gravir ce volcan qu'on voit juste à côté là ?
On le voit très bien depuis Cholula, vous avez raison. Cette fausse montagne, bon, c'est vraiment une fausse montagne. L'idée de la pyramide, c'est tout à fait vrai. Elle a la même forme d'ailleurs que le popo qu'on voit à l'horizon. Simplement que tout à l'heure, on le voyait sur la droite depuis Mexico et maintenant, on le voit sur la gauche parce qu'on a passé de l'autre côté du plateau. Et bien sûr que c'est possible de monter. Et non seulement c'est possible, mais on peut, par exemple, depuis ce côté, aller jusqu'à Amecameca. Amecameca, c'est un village voisin qui n'est pas très loin. On doit juste passer derrière quelques montagnes qui sont préliminaires à la toute grande qui est devant nous. Quand j'évoque quand même 30 ou 40 mètres de hauteur, ça se voit. Et pour y arriver, c'est beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Parce que, bien sûr, vous êtes déjà à 2000, hein, vous êtes à 2100. Mais il reste vrai que, comme pour l'Himalaya, on a cette impression d'être tout près tout en étant très loin. Alors, Amecameca, c'est la dernière étape avant de monter vers le Paso de Cortés. Paso, ça veut dire col. Et Paso de Cortés, c'est justement l'endroit qu'a choisi Cortés. L'autoroute d'aujourd'hui qu'on a prise tout à l'heure avec notre petite coccinelle, elle passe carrément à l'extérieur et c'était la route normale aussi. Et Cortés l'a refusée tout simplement parce qu'il avait un peu peur des gens de Mexico. Il savait qu'il y avait eu des embuscades et à Cholula, il avait eu une embuscade dont on parlera tout à l'heure qui a été terrifiante. Et en l'occurrence, si vous êtes à Mecameca, je m'arrêterai peut-être juste quelques secondes là puisque vous parliez d'agriculture tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a un endroit où j'ai vécu plusieurs fêtes et particulièrement le moment du carnaval ou les grandes processions à l'intérieur de l'église d'Amecameca. Il y a quelque chose qui est resté totalement précolombien, c'est un Christ, bizarrement. C'est une statue du Christ qui est articulée et qui ne pèse que 400 grammes. Alors, elle est vraiment grande en nature, elle est aussi grande que vous. Hein,
elle, elle est en quelle matière ?
C'est de la pâte de maïs, plus exactement. C'est vraiment fait comme une sorte de voile de maïs. Donc en fait, comment est-ce que je pourrais vous décrire cela ? Vous savez, quand on s'amuse en tant que gosse à faire ces petits masques avec du papier mâché, eh bien c'est proche de cette idée, simplement que c'est encore plus fin et encore plus dur. Donc vous avez une statue qui, d'allure, fait totalement 16e siècle, avec vraiment ce qu'on pourrait imaginer dans une église un peu morbide d'Espagne, avec ces Christs qui coulent de partout, avec du sang autour du front, etc. Et puis naturellement, le flanc opposé, c'est-à-dire le flanc droit qui a été touché par la lance du soldat. Et Et on peut le sortir en procession. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'un enfant peut vraiment le porter. Alors c'est impressionnant de voir un personnage d'un mètre 80 de hauteur qui est comme si tenu à bout de bras. Et ça a gardé cette notion précolombienne qui pendant les grandes processions, leur permettait de faire des échafaudages impossibles avec cette idée de la feuille et de la pâte de maïs. Vous voulez monter au popo ?
Adieu, oui.
Alors en l'occurrence, moi je vous dirais qu'il faut d'abord faire une étape à 3000 mètres. Il y a une cabane où on peut se reposer, là justement près du Passo de Cortés. Et puis, vous serez donc entre, je le rappelle, entre la jeune femme couchée, l'Itzacihuatl, et puis là, sur votre gauche, vous voyez ce volcan qui est souvent dans la brume. Alors, pour monter, ben, je dirais qu'il faut d'abord... le seul problème, c'est l'altitude, en fait.
Donc on en souffre
énormément. Ah oui, ça c'est vraiment... J'avoue que la première fois où je l'ai fait, je n'étais pas très bien habillé. Je parle surtout de mes chaussures. Et on m'avait dit que ce n'était pas si difficile que cela. Je l'ai fait dans une saison où, malheureusement, la neige était un peu fondante tout en haut. Il y a donc des crevasses et ça peut être assez délicat. Il vaut mieux s'encorder, d'ailleurs. Mais ce qui est très pénible, c'est de se frayer un chemin sur cette pente avec toutes ces cendres volcaniques. Hein. C'est vraiment un volcan, ça l'est resté. Et c'est seulement sur la dernière étape qu'on voit qu'il y a des difficultés. Parce que là, le dernier tertre, enfin la dernière partie, est complètement rocheuse. C'est vraiment de la lave qui a durci. Et on part généralement depuis le col de Tlamacas. Et là, il y a ce petit coin où on a trouvé notre abri pour la nuit. Alors moi, je dirais qu'il faut partir vraiment avant le jour. Il faut partir vers 4-5 heures du matin. Et puis, vous passez par El Ventiroya sur la face est. Donc, on est vraiment du côté de Puebla. On est vraiment du côté de Cholula. C'est exactement ce qu'on a sous les yeux depuis Cholula. Et c'est un endroit qui est plus difficile, plus ardu, plus direct aussi, mais ça vous permet de redescendre le même jour. Et on trouve d'ailleurs très facilement des guides à Mekameka et l'escalade de l'autre. Alors la belle voisine, la jeune femme blanche, c'est beaucoup plus difficile. Là, je dirais carrément qu'il faut faire partie d'un club alpin, si on peut appeler ça alpin.
Il faut vraiment être entraîné.
Là, il y a des gens qui le font, mais il faut vraiment prendre des guides locaux tout à fait expérimentés. Il faut déjà faire de la montagne. Cholula. C'est assez impressionnant quand on arrive dans cette ville, parce que d'abord c'est une véritable ville. Il faut comprendre qu'au moment où Cortés est arrivé depuis la côte, il a attendu très longtemps, il a eu pas mal de problèmes. On le rencontrera en route encore en descendant sur Veracruz, même si on fait le chemin inverse. Cholula, c'est un endroit qu'il avait décrit à Charles Quint, il écrivait tout le temps, en disant qu'il y avait plus de 400 temples et pyramides dans cet endroit. C'est la même impression qu'on ressent aujourd'hui. Il n'y a plus de pyramides vraiment visibles, on en trouve quelques-unes comme cela sous des collines de verdure ou avec quelques arbres qui les cachent. Mais à la place de ces pyramides, il y a bien sûr des églises. Et Cholula, lorsqu'on grimpe sur ce qui reste de la plus grande des pyramides, lorsqu'on va tout au sommet devant cette Vierge de los Remedios, je dirais que c'est peut-être une des visions les plus impressionnantes que l'on ait sur une zone religieuse catholique. On peut vraiment compter à l'horizon, dans cette plaine absolue, c'est vraiment très très plat, des centaines d'églises. Il y en a partout. N'importe quel petit patelin a au minimum 3 églises et Cholula en a encore une bonne soixantaine qui sont visibles depuis le sommet de cette fausse montagne. J'ai dit fausse montagne parce que ce qui était peut-être assez fou pour l'époque précolombienne, c'est qu'elle a été construite en 9 étapes, cette pyramide, et qu'elle correspond à peu près à quelques 9 ou 10 millions de mètres cubes de terre et de roches, et que lors des fouilles qu'on a fait au début du siècle, eh bien, on a pu remarquer que on a fait grosso modo à peu près 8 km de tunnel à l'intérieur. On a vraiment joué à la taupe et on s'est rendu compte que chaque fois qu'il y avait une construction, on l'épargnait et qu'on en remettait une autre dessus et ça nous a permis de les compter.
C'est toujours leur fameux système.
C'est l'oignon, là je crois que vous y êtes. Ouais. On l'a déjà ressenti au Temple Mayor quand on le visitait dans le centre de la ville de Mexico. Et à Cholula, il y a eu plusieurs événements qui me touchent. C'est surtout le fait justement que quand Cortés est arrivé par la côte, il a reçu des espions indiens et particulièrement des gens qui vivaient dans la région de Cholula et peut-être plus exactement à Huehuetzingo où nous irons tout à l'heure parce que c'est juste à côté. Et bien là on leur a averti que l'empereur aztèque lui avait prévu une embuscade et que là on allait l'attaquer de façon extrêmement méchante pour la première fois. Il a eu très peur et il a simplement décidé d'avoir une sorte de tactique à lui et vous allez voir qu'elle a été terrifiante et même qu'elle lui a permis de gagner d'un seul coup tout le Mexique.
When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall. In the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who is as sweet as a dove. For the first time, I can see I need love. There I was, joking at my games. So many hearts, and I'm saying no names. A thought occurred, tears made my eyes burn. I said to myself, look what you've done to her. her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'll never dish another raw deal. Playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say I love you. Say no more, I whisper in your ear. I say I love you, I will always be here. And though I often reminisce, I can't believe that I found desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. Half of me deserves to be this way until I'm old. The other half needs affection and joy, the warmth created by a girl and a boy. I need love. Romance, sheer delight, how sweet. I gotta find me a girl who can make my life complete. Scratch my back, get cozy and huddle. I would lay down my jacket, you could walk in a puddle. I'd give you a rose, but light your chair before we eat. Kiss you on the cheek, oh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do. But where the hell are you? Neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. You're not in my closet or under my rug. And this love search, it's really making me bug. So if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love, you'll see what I mean. Fantasies can run, but they cannot hide. And when I find you, I will pour my love inside. I need love. Scold you, suck on your neck, caress and hug you. Cry and moan, you'll never be alone. If you're standing next to me or on the phone, can't you hear it in my voice? I need you so bad. I've got money, but love is something I never had. I need your ruby red lips, sweet face and all. Love you more than the man who's 10 feet tall. I watch the sunrise in your eyes. So in love, when we hug, I feel paralyzed. Our bodies explode in ecstasy. I'm real, you're as soft as a pillow, I'm as hard as steel. It's a dream, I can't lie, because I've never been there. This is an experience that you and me can share. Clean, unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I will never forget. I need love. I need something that's stronger. Friendship, trust, respect, and admiration. This whole experience is such a revelation. Taught me love and how to be a real man. Always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady, and you mean so much. My body tingles all over at the slightest touch of your hand. Understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me you're mine. When I find you, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. Can't sit and wait for my princess to arrive. Struggle and fight to keep my dream alive. I've searched the world for a special girl. When I find you, watch this love unfurl. I need love. Please make yourself seen. I need love.
Que s'est-il passé, Maurice, lorsque Cortés est arrivé à Cholula ?
Il arrivait donc depuis la côte, il allait sur Tenochtitlan et finalement il a eu peur d'une véritable embuscade dans cette ville qui faisait plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et finalement il a pénétré très gentiment, je veux dire en catimini pratiquement, dans une ville qui avait l'air morte. Il faut bien imaginer aussi ces bâtiments très bas, un étage en général, et puis toutes ces pyramides que j'évoquais tout à l'heure, et puis la toute grande du milieu là, qui, je vous le dis en passant, est en fait la plus grande construction qui ait jamais été faite au monde. 9 millions de mètres cubes, c'est absolument incroyable. Et il a simplement placé ses bombardes un peu partout, il a visé ses soldats, et il y a eu un véritable carnage. C'est-à-dire que sans aucun avertissement, il a massacré tout ce qu'il trouvait dans Cholula. Il y a eu, selon les chiffres, entre 3000 et 6000 morts en une seule journée.
Ça a dû à la peur.
La peur, bien sûr, et puis la surprise, parce que depuis le mois d'avril où il traînait au Mexique et il est resté longtemps sur la côte, là on est à peu près au mois d'octobre, il va arriver en novembre à Mexico, c'est la première fois qu'il y a une intervention aussi violente de la part des Espagnols, et ça a eu un effet psychologique absolument incroyable. Vraiment, le massacre absolu de Cholula, et puis la destruction et l'incendie immédiat de tous les grands sanctuaires et de toutes ces pyramides, sauf la grande, qui n'a pas pu être détruite d'un seul coup, parce qu'il faut vraiment des bulldozers pour la démolir. Mais au moment où on va reconstruire Cholula de manière coloniale, et qu'on va remplacer tous ces reste fumant par des églises petit à petit, on dit qu'il y en a une par jour, et c'est vrai que ça donne cette impression quand on voit l'ensemble, et bien finalement il ne restera que cette immense colline sur laquelle on a posé une basilique, une superbe basilique jaune qu'on aperçoit de n'importe où sur la plaine. Et la ville va presque disparaître au point de vue population, il y a encore eu une peste incroyable dans les années 40, là je parle bien sûr de 1540, 1544, 46, donc la population de cet endroit va véritablement dépérir et être pratiquement annulée. Et c'est ce qui vous explique un peu la raison de la naissance de Puebla. Parce que Cholula, c'était un centre incroyable qui était totalement séparé physiquement, politiquement, religieusement de Mexico et qui n'appartenait pas totalement aux Aztèques. Et là, déjà depuis des siècles, on avait des marchés, de nouveau, un côté commercial, un marché qui était très spécialisé sur l'orfèvrerie et les travaux d'origine mixtèque. Alors, il faut que je vous explique juste ce que ça veut dire. En fait, l'orfèvrerie est née à peu près au 12-13e siècle au Mexique, et tout a été inventé à Oaxaca, qui se trouve à 600 km au sud.
Ça a été inventé par les Mexicains, donc ?
Non, c'est sûrement venu du Panama, du Pérou, où déjà depuis 2000 ans, on faisait les objets en or ou en argent. On n'a jamais ressenti le besoin d'utiliser le métal pour des raisons pratiques, mais finalement, là, la bijouterie est arrivée d'un seul coup, avec une qualité absolument éblouissante. Et à Cholula, ces Mixtecs avaient une sorte de point de vente, si vous voulez, et donc un point culturel aussi très fort. Il y avait de la plumasserie, parce qu'ils adoraient la plume, mais on en a déjà parlé. Et au XIVe siècle, on a surtout inventé une superbe céramique polychrome avec un côté très lisse et très beau qu'ils ont exporté dans le monde entier de l'époque. Sans des détails, mais qui prouve que tout à coup, un centre comme celui-ci a pu, uniquement parce qu'on aimait les couleurs chatoyantes, devenir un centre important avec naturellement le serpent à plumes précieuses qui était sûrement le culte le plus fort de Cholula. Et c'est ainsi que va se terminer véritablement la ville et la vie de cette cité. Et juste après, on va pouvoir comprendre pourquoi, là-bas, sur quelques petites collines, va naître Puebla, Puebla la Blanche, l'Espagnol, qui n'a plus rien d'indien.
Looking for a savior. cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl. If you kill the bird, I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving up and nail them. Got enough guilt to stop.
Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à Puebla, Maurice.
Bah oui, il faut bien y arriver une fois. C'est une ville énorme. On est à plus de 200 kilomètres de Mexico. Et Puebla, c'est d'abord une suite de petites collines, comme je le disais, avec une entrée qui est assez curieuse. Lorsqu'on pénètre dans cette ville, on comprend pour la première fois qu'on est en Espagne. La première chose qui nous touche, c'est d'abord la blancheur, ou en tout cas la qualité de la pierre. Et en même temps, alors, quelque chose qui vous saute aux yeux devant chaque petite église de la région, mais particulièrement à Puebla, c'est naturellement ces faïences polychromées qui ont été reprises de l'Andalousie, et on en a fait une véritable production à Puebla. On appelle ça dans le langage commun des azulejos, c'est-à-dire tout ce qui a cette teinte azur, hein, azul, azur, mm-hmm. Ça vient de l'arabe. Et finalement, lorsque on pénètre dans les premières rues, on remarque d'abord ce système très curieux de rues qui se croisent en fait à angle droit, et elles ont toute cette allure coloniale, bien sûr. Je veux dire,
c'est une grande ville, ou
c'est une ville qui fait plus d'un million et quelques d'habitants.
Ah oui,
c'est pas petit, mais il y a vraiment un cœur qui est extrêmement étendu, et il faut surtout savoir, et on le voit tout de suite, que cette ville est née uniquement dans le cerveau d'un, je dirais presque d'un évêque. Parce que Cholula, que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu le centre spirituel, le centre de tous ces anciens dieux, de ces immenses pyramides qui évoquaient le côté indien, la puissance indienne. Et finalement, c'est dans le, c'est dans les songes, ou plutôt dans un rêve, que ce prélat aurait eu l'idée de fonder une ville parallèle à Cholula. Et ça se voit, c'est-à-dire quand vous êtes sur la colline de Cholula, c'est la fausse montagne, vous voyez en face Puebla. Et quand vous êtes à Puebla, vous voyez Cholula. C'est vraiment la concurrence, hein, indienne, blanche. Et son songe va lui faire appeler cette ville Puebla de Los Angeles, des anges. Hein. Et vraiment, on a l'impression que là, lorsqu'en 1531, on décide de construire cette ville, qu'on a voulu finalement, là on est dans une vallée qui portait un nom que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça se traduit en français par le lieu où l'on tanne les peaux de serpent. Ça vous va, vous aimeriez savoir ce que...
Bien sûr.
Alors, Quetzalcoatl, c'est vraiment une idée qui est d'ailleurs assez proche de l'idée indienne de Cholula. Et pour la transformer, eh bien, on va naturellement, rapidement, construire toutes ces églises et le Tzokalo. Immédiatement, on construit le Tzokalo dans le centre. Et ce centre-ville, vous aurez une des cathédrales.
Tzokalo, c'est le socle, hein, c'est ça?
C'est l'idée du socle, mais c'est obligatoirement le nom qu'on donne aujourd'hui à la place centrale de chacune des villes. Et là, on va très vite construire une cathédrale très, très imposante à la fin du XVIe siècle. Et c'est toujours cet évêque Juan de Palafox y Mendoza qui va insuffler cette idée blanche. Et c'est pratiquement la plus vaste du Mexique. Elle est énorme. C'est la seconde après celle de la capitale. Et quand on est devant ces bâtiments, quand on est devant le palais du gouverneur, quand on flâne dans les rues piétonnes, qu'on va vers Santo Domingo, je crois que la prochaine fois, on pourrait visiter un peu cette ville.
Avec plaisir, oui.
Parce qu'il y a des choses éblouissantes. On a vu que l'extérieur, on a vu que les mailles, on a vu que le blanc. Quand vous pénétrez à l'intérieur, c'est le baroque qui va nous sauter aux yeux. Il y aura de l'or partout. C'est la plus belle région du Mexique pour comprendre ce qu'était la contre-réforme. C'est vraiment une idée de contre-réforme. On va essayer de transformer la religion pour prouver à l'Indien que le catholicisme peut très bien le convaincre et que finalement, par des dorures, par des décors qui ont cette même harmonie foisonnante, on peut lui créer un univers qui lui conviendra. Mais à Puebla, attention, on parle un bon espagnol, on se sent véritablement au cœur de la Castille ou dans les plus belles régions d'Espagne. Puebla n'a rien d'indien. Elle est totalement blanche, elle le restera. Il y a même un côté un tout petit peu froid. Vous voyez, il est 8h du soir, on s'est baladé entre 6h30 et 8h, les rues étaient pleines, et là, plus personne. Tout le monde est à la maison, comme dans n'importe quelle ville d'Espagne, lorsque tout à coup, c'est l'heure de manger. Et que parce que vous êtes à 2000 et quelques, une ville se meurt instantanément.
Et on se retrouve dimanche prochain entre 11h et midi. À dimanche.